Chères auditrices, chers auditeurs de Shalom Bourgogne, vous êtes dans votre émission Histoire, Mémoire et Transmission. Je reçois ce matin Madame Goutani, Pascale Goutani, référente Mémoire et Citoyenneté pour l'Académie de Dijon, qui va nous présenter un programme tout à fait exceptionnel qui s'étale sur 3 ans et qui s'appelle Les Routes des Mémoires, des Justes parmi les Nations, des Tziganes et des Tirailleurs en Bourgogne-Franche-Comté pendant la Seconde Guerre mondiale. Un titre très long mais qui permet de parler de l'ensemble des populations concernées. Alors, le projet et sa genèse, en quelques mots.
Eh bien, bonjour, merci de m'avoir invité pour parler de ce projet commun donc, aux deux académies de Besançon et de Dijon. Alors, la genèse, c'est le plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'antitsiganisme qui inclut notamment l'idée de lieu de mémoire, d'une réflexion sur ce qu'est un lieu de mémoire. Et dans notre cas, à Besançon et à Dijon, on a pensé que la réflexion, il fallait l'étendre aussi au lieu de mémoire de proximité. Que la mémoire ne soit pas pour les élèves quelque chose forcément de lointain, dans des lieux extrêmement connus, mais pas si nombreux que ça, pas forcément accessibles facilement pour eux. Et on voulait les rapprocher finalement de leur territoire et leur dire que l'histoire, elle s'est passée partout et que pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'est passé dans le village, dans la ville de proximité, aussi des choses qu'ils pouvaient découvrir. Et ce sont aussi des sujets de recherche actuels assez importants, hein, l'histoire des Tziganes et l'histoire des tirailleurs notamment est en pleine progression et c'était intéressant aussi de dire aux élèves que dans ce travail collectif, ils allaient participer finalement à la construction d'une histoire et d'une histoire locale, territoriale.
Alors les collégiens et les lycéens sont tous concernés, c'est les deux?
Tout à fait, des collégiens, des lycéens, de lycées professionnels, de lycées technologiques, de lycées généraux. Donc c'est ouvert à tout le secondaire, avec évidemment des classes qui sont un petit peu plus ciblées par rapport à leur programme scolaire. Mais il y a aussi des classes qui n'ont pas s'inscrit cette année-là dans leur programme, mais qui se sont inscrits parce que ça peut aussi être dans le cadre de l'enseignement moral et civique et puis dans le cadre de projets. Hein, qui peuvent être des projets musicaux, qui peuvent être aussi des projets artistiques. Hein. Donc, on a des classes très, très diverses qui sont impliquées dans ce projet.
D'accord, il n'y a pas que des profs d'histoire, ça peut être tout à fait pluridisciplinaire.
C'est très pluridisciplinaire, il y a beaucoup de profs de lettres, il y a aussi beaucoup de profs documentalistes, il y a des profs de musique, il y a d'autres profs que les profs d'histoire qui sont impliqués, même si évidemment... En général, le prof d'histoire fait partie de l'équipe qui encadre les élèves.
On rappelle que c'est dans l'enseignement, donc c'est aussi pour apprendre aux élèves à apprendre et à traiter des documents.
C'est apprendre aux élèves, bien sûr, à trouver de la documentation, à juger de la fiabilité de la documentation, les rapprocher des archives, où il découvre des trésors. A priori, un élève, un adolescent, quand on lui dit « on va aller aux archives », ce n'est pas forcément ce qui va l'attirer le plus. Et finalement, il découvre que ce n'est pas forcément quelque chose d'austère. Et puis, c'est aussi les faire participer à la reconnaissance de personnages oubliés. On a découvert, par exemple, des tirailleurs dont on ne savait rien. Jusqu'à présent, qu'on ne savait même pas qu'ils étaient sur notre territoire à cette période-là, parce que les hasards ont fait que, dans ces recherches-là, les archives, qui nous ont beaucoup aidés, les archives départementales, des archives municipales, ont fait des découvertes elles-mêmes sur des pans de notre histoire de la région.
Alors nous avons 3 routes.
Oui, nous avons 3 routes. Nous avons proposé donc dans ce projet une centaine de lieux qui concernent 3 routes. Donc pour les tirailleurs, les Justes parmi les Nations et les Tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc les établissements choisissaient un lieu, choisissaient des personnes liées à un lieu quand c'était les Justes parmi les Nations, liées au lieu de sauvetage, pour commencer ces recherches. Donc on a cette année 43 lieux, 53 Justes parmi les Nations qui vont être étudiés. Et puis on espère bien que les autres lieux aussi, les autres années seront aussi des sujets d'études. Certaines équipes nous ont dit aussi qu'elles allaient continuer sur le même lieu parce qu'il y a tellement de choses à faire découvrir aux élèves, il y a un tel intérêt aussi que le projet d'un même établissement peut aussi se reconduire l'année prochaine.
Travail qui évidemment contribue au développement intellectuel et à la connaissance des jeunes, mais travail qui ne gêne pas le reste des activités obligatoires quand on est collégien ou lycéen, bien au contraire, si j'ai bien compris.
Bien au contraire, il travaille aussi énormément de compétences, hein, puisque chaque établissement qui est inscrit, hein, chaque classe, chaque groupe d'élèves, va produire un podcast, c'est les compétences orales, hein, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans le développement aussi du cursus. Et puis avant l'oral, il faut l'écrire aussi, ce texte-là, donc on travaille aussi la maîtrise de la langue. Et puis ils vont faire aussi un panneau numérique, tout ça sera relié sur une carte numérique, donc on pourra découvrir les choses en entrant par le lieu, on pourra les découvrir en entrant par une exposition numérique qui réunira les panneaux, par une chaîne de podcast. Il y aura différentes entrées, hein, ça dépend si on s'intéresse spécifiquement à un lieu ou si on s'intéresse à la thématique de cette route-là. Donc des choses tout à fait diverses et puis des productions qui seront aussi certainement diverses, mais qui auront un point commun. C'est le professionnalisme avec lequel les équipes travaillent et qui est une vérification aussi universitaire, un travail avec une graphiste professionnelle. Donc on veut une production de qualité, mais faite qui soit vraiment pour autant la production des élèves.
Très bien, ça veut dire qu'il y a énormément d'établissements qui sont concernés, donc énormément d'élèves.
Énormément d'élèves, on a à peu près 1100 élèves cette année qui travaillent sur ce projet. Donc, or c'était l'année de lancement, donc c'est une belle réussite, hein, d'avoir motivé, mais je pense qu'aussi ça correspond à des sujets qui intéressent les élèves, des sujets qu'ils découvrent en partie. C'est une autre façon de traiter cette période-là, et c'est je pense aussi ce qui explique l'engouement qu'on a eu pour ce projet, dont nous sommes très, très, très contents, bien sûr, dans les deux académies.
Ce qui veut dire presque une quarantaine d'établissements dès cette année.
Voilà, exactement.
C'est très important.
Avec,
Alors, ce que je vous propose pour nos auditeurs, c'est peut-être de nous présenter pour chaque route un lieu ou une problématique, en tout cas, nous faire rendre un peu plus vivant, un peu plus compréhensif ce travail. Et de qui et de quoi parle-t-on ?
Oui, donc je vous disais beaucoup de lieux, alors je vais en prendre un pour chacune des routes qui soit assez, un ou deux qui soient assez représentatifs. Si on prend la route des Tziganes, par exemple, il y a un établissement, un collège de l'Académie de Besançon qui travaille sur Arc-et-Senan. Arc-et-Senan, hein, les Salines, bien connues pour d'autres raisons, ont été un camp d'internement de Tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est tout un pan de l'histoire d'Arc-et-Senan qui est travaillé par les élèves. Et le site même, Arc-et-Senan, a tout de suite été partie prenante et a tout de suite facilité le plus possible ce travail-là en disant que c'était quelque chose aussi qu'il voulait faire connaître. Parce que c'était pas vraiment la raison pour laquelle on vient à Arc-et-Senan, mais ils pensent que c'est intéressant de voir aussi ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale sur ce lieu.
Très bien. Donc là, ils sont au travail pour l'instant.
Hein. Ils sont au travail, oui. Le travail doit aboutir, hein, en fin d'année scolaire, de façon à ce que les élèves qui ont travaillé cette année voient l'aboutissement de leur recherche. Mais bien sûr, alors, il leur fallait quand même pas mal de semaines pour y travailler.
En l'occurrence, archives, lieux, documentation, films, etc. Et les témoins. Est-ce que, par exemple, pour Arc-et-Senan, ils ont des témoins, des gens qui auraient vécu?
Alors, pour Arc-et-Senan, je ne crois pas, mais il y en a pour Maulois, qui est un autre camp tzigane. Donc, parfois, on arrive à croiser avec des témoins. On en a plus pour la route des Justes parmi les Nations, hein, parce qu'on a des enfants cachés qui sont là. Et puis, grâce à notre grand partenaire, notre principal partenaire pour la route des Justes parmi les Nations, qui est le Comité français pour Yad Vashem, le Comité français met en relation, déjà met ses archives à disposition des établissements qui travaillent sur ce sujet, et également met en relation avec les descendants des justes ou les descendants des enfants ou des personnes sauvées, et parfois encore avec des personnes sauvées, hein, qui pouvaient être enfants à cette époque-là. Donc on a aussi des témoignages et des archives personnelles qui peuvent être utilisées, et des témoins qui vont se rendre dans les établissements, hein, pour participer aussi à ce travail.
Oui, la question des tziganes est peu connue, et encore moins des enfants, évidemment.
Oui.
Donc, vous avez parlé des justes, donc présentez-nous quelques exemples concernant les justes.
Alors, pour les justes, donc, cette année, 53 justes, hein, qui sont à l'étude, et une histoire assez particulière, parce qu'elle relie toute la Bourgogne et la Franche-Comté. La famille Schneider, la famille d'industriels, hein, bien connue du Creusot et de Montceau-les-Mines, à deux personnes reconnues comme justes parmi les nations par Yad Vashem, Liliane et Charles Schneider, hein, qui sont allés chercher les enfants d'une famille amie, hein, les quatre enfants d'une famille amie qui sont allés les chercher à Paris, qui les ont emmenés à la frontière suisse. C'est pour ça que le lieu de sauvetage est dans l'Académie de Besançon, et c'est un lycée professionnel de Pontarlier qui travaille sur cette histoire-là, mais qui s'est servi aussi des archives départementales de Saône-et-Loire, des archives du Creusot, hein, pour la famille Schneider. Donc une histoire assez extraordinaire. Ces quatre enfants ont pu être sauvés, ont pu passer la frontière, et Liliane Schneider n'a eu qu'un seul... énorme regret tout le reste de sa vie, c'est qu'elle n'a pas pu sauver la maman, hein, qui est restée à Paris, a été raflée et a été déportée et assassinée à Auschwitz. Mais c'est aussi des destins comme ça, des chaînes souvent, des chaînes de justes, hein, qui vont se retrouver, parce que c'est rarement une seule personne qui a pu sauver. Souvent, c'est tout un réseau de personnes qui ont pris des risques très très importants pendant cette période-là, hein, qui ont... fait des trajets ou qui ont caché, hein, des juifs chez eux. On a aussi pour les élèves la découverte que dans des petits villages, dans des fermes un peu isolées, des personnes ont été héroïques pendant la guerre, hein, et ne s'en sont pas forcément même vantées par la suite, hein, c'est resté très, très anonyme. On a beaucoup de personnes qui sont impliquées justement parce qu'on est dans une région rurale. Et c'était peut-être pas plus facile, mais disons peut-être un peu moins difficile, hein, de se cacher pendant la guerre pour les Juifs. Et puis on a aussi la route des tirailleurs.
Alors ça, c'est un point très particulier, parce que je pense, enfin beaucoup d'entre nous n'imaginions pas que ça allait être une route, et que cette route finalement permet de voir des choses, de connaître des choses qui sont pour l'instant peu connues, voire pas connues du tout.
Oui, les tirailleurs, on a une dizaine de lieux, hein, sur cette année qui sont étudiés par des établissements. Pour en citer deux qui me paraissent aussi assez emblématiques, on a... Alors les tirailleurs aussi, il faut quand même redire une petite chose. Souvent on dit tirailleurs sénégalais, c'est l'appellation générique. Les tirailleurs venaient de différentes régions, hein, d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne. Il y a des Marocains, des Algériens, des Ghanéens. Et puis aussi beaucoup de tirailleurs indochinois. Hein, notamment les tirailleurs morts à Beaune, hein, sont d'un régiment de tirailleurs indochinois. Donc tirailleurs, c'est vraiment au sens très large, et ça, les élèves aussi l'ont découvert. Pour ceux qui connaissaient l'appellation tirailleurs, pour eux, c'était forcément des tirailleurs sénégalais. Ils ont découvert que c'était qu'il y avait beaucoup plus de tirailleurs et d'origines beaucoup plus diverses qu'ils ne le pensaient.
Question importante pour les auditeurs, c'est... Qui étaient-ils et que faisaient-ils là, à ce moment-là ?
Alors, ils étaient dans des régiments donc français, hein, puisque c'était l'époque des colonies. Et donc, ils étaient dans des régiments quand même souvent mis à part. Et à la défaite de 40, l'Allemagne ne voulait pas de prisonniers de couleur, hein, pour employer l'expression allemande. Donc, ils ont été soit massacrés, hein, les tirailleurs de Clamecy, par exemple, dans la Nièvre, soit enfermés, mais sur le territoire français, pas en Allemagne. C'est le cas de Longueville, où il y a eu une prison, hein, très importante de tirailleurs d'Afrique subsaharienne, qui ont été enfermés là à peu près un an, et pour lesquels on a donc des documents, mais pas forcément les identités. Et là, le travail... et de rechercher, alors les élèves, mais aussi évidemment des chercheurs, des enseignants-chercheurs, de chercher qui étaient ces tirailleurs. Et puis on a un cas très très connu, On a Léopold de Senghor, qui à l'époque ne l'était pas, mais qui a été fait prisonnier à la Charité-sur-Loire, où il défendait dans l'armée française le pont contre les Allemands. Les soldats ont tous été faits donc prisonniers, et Senghor a été arrêté, et par contre, il a été enfermé, n'a pas été enfermé dans notre région. Mais le collège de la Charité-sur-Loire travaille sur cette période-là, sur ce qui s'est passé en 40, et puis aussi sur ce qu'il a écrit par la suite. Donc là, il y a un travail très littéraire qui a été fait, parce qu'il a parlé de cette période-là, il a parlé de la guerre, il a parlé de notre région dans des écrits tout à fait littéraires, que ce soit la littérature ou de la poésie. Donc le travail peut être extrêmement divers. C'est bien cet exemple-là. Et même quelqu'un comme Senghor, c'est très difficile de retracer son parcours pendant la guerre. Et pour les élèves, c'est une forme d'enquête. Parce qu'une grosse partie des archives appartiennent à l'État du Sénégal, donc ne sont pas accessibles pour la France. Et donc on a des bribes, et on reconstruit à partir de bribes et à partir de ces écrits ce qui a pu se passer en 40 à la Charité-sur-Loire, en juin 40.
Donc ces tirailleurs ont survécu, parce qu'ils n'ont pas été éliminés finalement par les Allemands, globalement.
Ça dépend des cas. C'est très 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 varié. C'est donc assez compliqué. Et c'est pour ça que c'est vraiment une histoire en pleine construction, même dans l'université. C'est vraiment des sujets qui sont travaillés aujourd'hui. Et les élèves, les professeurs avec qui on a fait un point récemment sur le ressenti des élèves à travailler sur ces questions-là, nous ont fait part de quelque chose qui a été une excellente surprise. C'était le plaisir qu'ils avaient dans un travail collectif et le plaisir qu'ils avaient de travailler dans quelque chose qui les dépassait et dans lequel ils avaient l'impression d'apporter une petite pierre à l'édifice. Moi, ça, je trouve que c'était une réflexion absolument merveilleuse de savoir que des élèves étaient sensibles au fait qu'ils participaient à leur échelle à ce travail-là, et puis qu'ils étaient, même s'ils ne travaillent pas vraiment en direct avec les élèves de tous les autres établissements, ils se sentaient dans un collectif de toute la région.
Oui, vous aviez dit au début de l'entretien, vous avez parlé d'un lieu de mémoire de proximité. Je pense que c'est en partie réussi déjà, puisque ça permet d'abord de faire sans trop de moyens, mais ça permet aussi de se rendre compte que l'histoire, ce dont on parle, c'était aussi là où vivaient les gens, leurs parents, leurs grands-parents.
Exactement. La mémoire, elle se transmet aussi dans les familles. Et là, maintenant, pour les élèves qui sont en collège ou en lycée, c'est les arrière-grands-parents, souvent. Donc, ça, on en parle moins, forcément. C'est plus leurs parents, c'est plus leurs grands-parents. Mais par contre, la mémoire dans les communes, dans les lieux, peut être encore vive. Et on voit que les élèves, en contactant les mairies, en contactant la presse locale, en contactant aussi, arrivent à retrouver énormément de choses qui n'étaient pas forcément mises en avant, mais qui sont encore là et qui peuvent faire vivre donc toute cette histoire et cette mémoire, puisque c'est évidemment lié, histoire et mémoire, dans ces routes.
Donc c'est la première année des trois années à venir, ce qui veut dire que d'autres établissements vont rentrer dans l'affaire.
Voilà, d'autres établissements vont rentrer, d'autres lieux vont être choisis, certainement. Certains établissements vont rester, parce qu'il y a une richesse aussi des archives qui n'ont pas fini d'exploiter. Ils ont envie de montrer encore d'autres choses aux élèves. Les archives départementales, notamment, ont fait un très, très gros travail pour leur mettre à disposition des documents. Et il y a des choses qu'on n'a pas l'occasion cette année d'exploiter, mais ça serait dommage de ne pas le faire pour la suite, parce qu'il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes sur l'histoire locale et régionale.
Cette méthode de travail, enfin ce type de projet, cette logique comme ça, transversale, pluridisciplinaire, où les enfants deviennent aussi un petit peu des historiens, où ils apprennent beaucoup de choses, ils découvrent beaucoup de choses, c'est ancien dans le monde de l'enseignement ou sur ces thématiques-là, où on est...
C'est pas particulier à ces thématiques-là. En fait, c'est pas. Il y a toujours eu. Il y a longtemps qu'il y a des profs qui travaillent avec de la pédagogie de projet. Par contre, ce qui est novateur dans ce projet-là, c'est que ça soit des projets qui sont tous liés. Hein. On a la pédagogie de projet, des établissements, des professeurs sont très impliqués depuis des années dans ce type de façon de faire, parce que ça touche beaucoup les élèves, ça les intéresse, ça leur permet de progresser en histoire, en français, parfois en langue étrangère, dans énormément de domaines. Hein, c'est indiscutable, mais c'est rarement relié, c'est-à-dire que ce sont des projets individuels. Isolé, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, qui ne sont pas en lien les uns avec les autres. Et la volonté d'en faire quelque chose, finalement, qui correspond à un territoire, c'est assez nouveau et ça a bien pris sur Bourgogne-Franche-Comté. On en est très, très, très heureux, puisque, au dire du ministère, il n'y a pas d'expérience de ce type-là, pour l'instant. Et on espère que ça pourra intéresser d'autres territoires, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire découvrir aux élèves sur leur propre territoire.
Très bien, écoutez, merci beaucoup Madame Goutani. Je rappelle que vous venez de parler des routes des mémoires des Justes parmi les nations, des Tziganes et tirailleurs en Bourgogne-Franche-Comté pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un projet sur 3 ans, donc qui est conduit par les deux académies, de Franche-Comté et de Bourgogne, enfin la région Bourgogne-Franche-Comté au point de vue territoire, qui monte d'ailleurs en puissance, avec déjà des premiers résultats très intéressants. Je pense qu'il sera important de voir dans les 3 ans ce qui va se passer, puis de faire un bilan et de venir en parler à la radio, parce que je pense que c'est quand même une affaire importante, vous l'avez dit aussi, qui permet aussi d'avoir une vision globale de ce qui s'est passé dans la région, et après d'en faire quelque chose qui fait progresser la connaissance, et aussi le travail pédagogique, si j'ai bien compris. Voilà. Vous étiez donc dans votre émission Histoire, mémoire et transmission sur Shalom Bourgogne. À très bientôt.